Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de faire le lien entre des aspects qui sont souvent traités comme étant purement techniques, statistiques et économiques, et puis les grands enjeux politiques, sociaux et même philosophiques qui sont en cause derrière ces comptes, précisément. Les milieux dans lesquels je suis, en particulier beaucoup le milieu associatif, le rapport au savoir et à la connaissance, il est très différent dans ces milieux-là. C'est un rapport d'échange, c'est pas un rapport de pouvoir, c'est pas un rapport de notoriété. Quand on ne sait pas, on le dit, et c'est une chance parce qu'on est d'autant plus en écoute des savoirs des autres. Alors que très souvent, le milieu universitaire, il construit du pouvoir autour du savoir et il est dans une logique de concurrence et de captation. Ce n'est pas du tout la même chose dans l'univers, en tout cas d'une partie des associations. Alors, d'abord, il y a des facteurs qui ne sont pas nouveaux, mais où la nouveauté, c'est de les prendre en compte. Par exemple, il y a deux grandes catégories de richesses que j'appelle les richesses premières, qui sont d'une part l'ensemble des richesses écologiques, qui ne sont pas prises en compte dans les systèmes de comptabilité nationale et qui sont absolument essentielles, parce que si, par exemple, la Terre devenait invivable, il n'y aurait plus d'économie possible. Pour les mêmes raisons, il y a l'ensemble des facteurs qui tiennent au fait que s'il n'y avait plus d'êtres humains, il n'y aurait pas d'économie non plus. Donc il y a des richesses premières sans lesquelles les richesses économiques, qui sont des richesses secondes, ne seraient pas possibles. Donc la nouveauté, là, ça n'est pas l'existence de ces richesses naturelles et de ces richesses humaines, puisqu'elles existent depuis des dizaines de milliers d'années et des dizaines de millions pour les richesses écologiques. La nouveauté, c'est de réencastrer l'économie dans l'ensemble sociétal et dans l'ensemble écologique, et de changer nos représentations de la richesse et de changer nos indicateurs de richesse, notamment parce que ces indicateurs, à la fois, ne prennent pas en compte ces facteurs-là et, d'autre part, vont comptabiliser comme étant des richesses positives des activités qui sont parfaitement nuisibles et destructrices, soit pour l'environnement, soit pour les êtres humains. Je citais l'exemple des accidents de la route qui sont comptés positivement parce qu'à partir du moment où ce sont des activités qui génèrent des flux monétaires, comme les grands agrégats économiques additionnent, par exemple, les valeurs ajoutées des entreprises, eh bien, on va avoir des activités destructrices qui vont être comptées positivement. Donc, vous voyez, il y a un énorme chantier, parce que ça a l'air simple comme ça, mais ceci entraîne des modifications absolument fondamentales, non seulement dans la façon de se représenter la richesse, dans la façon de la compter, mais aussi dans la façon de la faire circuler, de la distribuer. Ça, c'est la question des monnaies. Bon. Et puis, vous avez des éléments qui sont nouveaux, qui sont liés à tout le phénomène de la mutation informationnelle et qui tiennent là au fait que ce qui compte de plus en plus, c'est moins des facteurs proprement matériels que des facteurs immatériels. Et dans ces facteurs immatériels, le point décisif, c'est la fécondité de l'intelligence humaine. Par exemple, on parle toujours de l'informatique, des nouvelles technologies, mais on se focalise sur l'aspect technique. Mais en réalité, l'aspect technique, il est secondaire. Ce qui compte dans un ordinateur, ça n'est pas la partie matérielle, c'est la partie logicielle. La partie logicielle, c'est de l'intelligence humaine qui a été mise dans les logiciels. Et puis la façon dont vous et moi allons utiliser ces logiciels, qui sera l'élément déterminant, c'est aussi de l'intelligence humaine. Or, les conditions dans lesquelles fonctionne l'intelligence humaine sont des conditions qui sont très peu explorées et valorisées. Parce que précisément, l'intelligence humaine, elle ne fonctionne pas comme l'intelligence artificielle. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Il y a un rapport étroit entre l'intelligence et l'émotion. n'y a pas d'intelligence sans désir. Et donc réunir les conditions qui font que les êtres humains sont capables d'utiliser la formidable fécondité de leur intelligence, et notamment de l'intelligence collective, ça c'est un nouveau facteur de richesse. Là, c'est là que la démocratie, et notamment la démocratie sous des formes beaucoup plus participatives, est essentielle. Parce que si on veut valoriser cette intelligence collective, la première des choses qu'il faut faire, c'est de commencer par l'écouter, c'est-à-dire de se placer en situation où on écoute les gens et on leur donne le moyen d'accéder à un certain nombre d'informations, à un certain nombre de connaissances pour ensuite exercer leur jugement. Si l'expérience du budget participatif est aussi passionnante, c'est parce que la municipalité a fait le pari qu'en donnant l'information, en donnant des moyens d'agir sur des enjeux, y compris des enjeux complexes, des enjeux techniques, des enjeux financiers, que l'intelligence collective que ça allait générer allait ensuite produire des effets bénéfiques pour tout le temps. Donc il y a un rapport entre de nouvelles formes démocratiques et de nouvelles formes d'éducation populaire, de nouvelles formes d'évaluation aussi, qui sont tout à fait décisives. C'est pour ça que ce n'est pas un problème technique, ces questions des nouveaux indicateurs de richesse. C'est un problème social et c'est un problème politique, puisque la constitution de processus démocratiques de grande qualité de participation et de délibération est un atout. Un peu comme on dit de l'intelligence humaine, les neurologues nous disent qu'elle est exploitée, notre cerveau, on dit, il est exploité à seulement 10% de ses potentialités. Mais la démocratie, c'est la même chose. C'est pour l'essentiel un gisement en friche qui est exploité à peine 10% de ses potentialités. Et à partir du moment où on prend la peine de donner vraiment la parole aux gens, mais pas d'une façon démagogique, c'est-à-dire en leur permettant aussi de progresser, de s'éduquer, de former leur jugement sur des questions complexes, alors à ce moment-là, la fécondité globale de l'intelligence démocratique devient beaucoup plus importante. On est dans un domaine où il y a plusieurs voies qui sont nécessaires et possibles. Par exemple, il y a une voie qu'on évoque peu et qui est à mon avis très importante, qui est se réapproprier le langage et l'imaginaire. Je crois très important dans ce qui se passe à Porto Alegre, qui avait commencé à Seattle, mais c'est plus net à Porto Alegre parce que Porto Alegre témoigne d'une logique positive et pas simplement logique critique. Passer d'une critique de la mondialisation à une proposition, un autre monde est possible, c'est réintégrer l'imaginaire de la mondialité dont on avait fait en quelque sorte cadeau au capitalisme. Et je dirais d'ailleurs la même chose sur le terrain de la liberté, hein, c'est-à-dire, ou sur le terrain de l'avenir et du futur. Trop souvent, les luttes sociales au cours de ces dernières années étaient des luttes purement défensives, au niveau national, au niveau des acquis sociaux, au niveau du passé. Et à partir du moment, grâce notamment à l'émergence de cette société civile mondiale, où on est passé d'une logique purement défensive à une logique dynamique, on a dit, mais après tout, la vraie mondialisation, c'est nous. Parce qu'il n'y a de vraie mondialisation possible qu'avec la possibilité pour chacun des 6 milliards d'êtres humains de vivre pleinement debout. Une mondialisation qui bénéficie à 1/5 des êtres humains, c'est pas une mondialisation. Et c'est d'ailleurs une mondialisation extraordinairement fragile. Donc le fait de dire l'avenir, c'est nous, la vraie mondialité, c'est nous, je crois que c'est une façon de se réapproprier l'imaginaire et le langage qui passe par des processus démocratiques, mais qui est en même temps une voie qui appartient par exemple à un renouveau des mouvements d'éducation populaire, à un renouveau de l'imaginaire. Ce qui s'est passé de très important en Europe au cours de ces dernières années, notamment à l'occasion du licenciement de centaines de travailleurs à l'usine belge de Vilvoorde, c'est que ça a été une prise de conscience européenne et qu'il y a eu une lutte sociale européenne et que le syndicalisme européen a pris conscience qu'il ne pouvait pas se battre simplement sur le terrain national, qu'il fallait aussi qu'il construise une Europe syndicale qui sorte des stratégies d'offensive pour passer à des stratégies dynamiques, qui se souvienne que l'internationalisme, ça fait partie des valeurs fondamentales du mouvement ouvrier et du mouvement syndical. Et donc, c'est très important de ne pas avoir des visions binaires face aux nouvelles formes de capitalisme, de comprendre qu'on est dans une logique qui est beaucoup plus une logique de guerre de mouvement que dans une logique de guerre de tranchées, et ne pas laisser le capitalisme s'approprier des terrains comme l'avenir, comme le monde, comme l'Europe, voire comme la liberté, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Il reste le passé, il reste les espaces nationaux, il reste y compris la non-liberté. On comprend bien qu'à ce moment-là, ce sont des luttes qui seraient vouées à l'échec. Et je trouve que le renversement de perspective qui est en train de s'opérer et dont témoigne Porto Alegre est particulièrement important à cet égard. Hier, en regardant à la télévision brésilienne, les images de Davos et les images de Porto Alegre, c'était très frappant de voir à quel point Davos était triste. Et que la vraie image d'une mondialisation à visage humain, d'une mondialisation porteuse d'espoir, c'était évidemment pas à Davos qu'elle se trouvait, c'était à Porto Alegre. L'intérêt, par exemple, de la taxe Tobin, c'est que ça a justement permis à la fois une appropriation démocratique de questions qui jusque-là étaient considérées comme des questions de spécialistes. Les marchés financiers, on dit on est contre, mais au fond, on n'y comprend rien. Là, à travers cette idée d'une taxe qui a été en plus proposée par un prix Nobel, qui n'est pas un prix Nobel de gauche, qui fait la démonstration qu'on n'est pas impuissant, qu'on peut s'engager sur ce terrain-là, ça produit une véritable appropriation démocratique et ça produit aussi une nouvelle forme d'éducation populaire parce qu'on le voit bien à travers des mouvements comme ATTAC, il y a un appétit de formation et d'auto-formation. Une ONG de lutte et qui en même temps crée un conseil scientifique en son propre sein, qui par conséquent sort du modèle militant classique où il y a des ennemis, où le système est binaire, les bons et les méchants, où il suffit de lutter, etc., pour dire non, attention, ce sont en même temps des questions complexes. Et par conséquent, il faut nous doter de moyens de formation et d'auto-formation. Il faut y compris reconnaître qu'il y a des pluralités possibles de réponses. La façon dont des mouvements comme ATTAC, mais c'est la même chose sur la plupart des ONG à l'échelle internationale, elles sont profondément pluralistes en leur sein. Et ce pluralisme, ces divergences, loin d'être considérées comme une menace, comme c'est souvent le cas par exemple à l'intérieur des partis politiques, sont considérées comme des atouts. Donc, des processus comme la taxe Tobin déclenche des effets très positifs. Mais en même temps, évidemment, ce n'est pas uniquement la taxe Tobin en tant que telle qui, par un coup de baguette magique, changerait les choses au niveau de l'espace mondial. On peut très bien imaginer que demain matin, le G7 adopte la taxe Tobin et ce n'est pas pour autant que le monde changerait de face. Mais ça serait à ce moment-là une telle victoire sur le plan culturel, sur le plan de l'imaginaire, que toutes les autres batailles, dont la taxe Tobin n'est qu'un des éléments parmi bien d'autres, se retrouveraient à cette occasion formidablement confortées par ce qu'aurait été cette victoire-là. Si on considère que tout être humain est un créateur de richesse parce qu'il est un être humain, parce que la vraie richesse, elle est produite dans la vie et dans le rapport entre la vie et la conscience et l'intelligence. Donc en ce sens-là, c'est non seulement une exigence éthique, mais y compris, pourrait-on dire, un investissement pour les sociétés que de permettre à tout être humain d'avoir des conditions minimales qui lui permettent de sortir de l'ère de la survie. Parce que à quoi ça sert d'être un être qui a dans la tête 100 milliards de neurones qui sont capables même d'avoir 10 000 connexions chacune, si c'est pour être réduit à l'état d'un mammifère luttant pour sa survie? Ça n'a aucun intérêt. C'est même contre-productif, parce qu'à ce moment-là, avec notre néocortex, on est amené à être dans la souffrance, à se poser des questions que la survie ne peut évidemment pas traiter. Donc le fait de considérer que tout être humain vivant sur la planète a droit de recevoir des conditions décentes de base qui lui permettent de sortir de l'état de survie pour ensuite commencer à rentrer dans un état qui va être celui de la vie proprement dite, et où là on n'est plus dans une logique de revenus de base et de protection sociale de base, on est dans une logique où il va y avoir de multiples formes d'échanges, de multiples formes d'activités, dont les activités économiques seront un sous-ensemble. Il ne faut pas transformer le revenu de base et la protection sociale de base en une espèce de système bureaucratique d'assistance généralisée, parce que là, il serait contre-productif. Mais en tout cas, dans la direction que vous évoquez, oui, je pense que c'est un objectif mondial que, par exemple, la société civile mondiale pourrait s'assigner. Et la preuve qu'il est possible, c'est que les chiffres qui sont donnés par le programme des Nations Unies pour le développement mettent en évidence que les dépenses annuelles qui seraient nécessaires pour en gros répondre à ce revenu de base, c'est-à-dire faire en sorte que chaque être humain à la fois puisse se nourrir, puisse accéder à l'eau potable, puisse avoir un toit et un logement décent, qu'on puisse éradiquer les grandes épidémies de base, que tout ceci serait possible avec de l'ordre de 240 milliards de dollars par an. Or, le chiffre annuel des dépenses de publicité est 10 fois cette somme, de l'ordre de 2400 milliards. Par conséquent, on n'est pas en face d'un problème de manque de moyens, on est en face d'un problème d'organisation à l'échelle planétaire des formes de régulation et de redistribution de la richesse. Moi, j'espère qu'une prochaine rencontre du Forum social mondial se tiendra, par exemple, en Afrique, et notamment en Afrique du Sud, qu'une autre se tiendra en Asie, et pourquoi pas en Inde. Et à ce moment-là, la construction même de ce mouvement civique et social mondial va aussi se nourrir de ses propres difficultés. C'est-à-dire précisément le fait d'avoir toutes ces insuffisances est une incitation supplémentaire à progresser collectivement.